Bonsoir Kevin, comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Ben écoute, ça va bien. En général, ça va bien. Sur le plan cinématographique, mon cœur est un peu brisé.
Ah,
Ben en fait, mon cœur est brisé. Pardon?
t'avais beaucoup d'attentes pour le film de cette semaine?
Ben en fait, j'ai une relation un peu, comme bien des gens, j'imagine. J'ai une relation un peu d'amour et beaucoup de haine envers Ridley Scott. Qui a fait Alien, évidemment, dans le temps, qui a fait Blade Runner,
Blade
et qui a
Runner,
fait Kingdom of Heaven, entre autres. Et tu fais Gladiateur aussi, je me
oui.
rappelle.
Gladiateur,
Oui,
oui.
Gladiateur. Donc, on en avait parlé effectivement au podcast aussi. Quatre excellents films, quatre, ben, dont au moins, je pense, deux chefs-d'œuvre là-dedans, dont mon film préféré, donc Blade Runner. Et depuis ce temps-là, disons que ça a pris un petit peu le bord. Et cette semaine, ben, je peux déjà le dire, on va parler de Napoléon. C'est dans le titre, évidemment, de toute façon, de l'épisode. Puis on l'avait annoncé, je l'ai annoncé sur Facebook récemment aussi. J'étais pas certain. J'étais un peu tiède à l'idée de dire, OK, on fait un film sur toute la vie de la carrière de Napoléon. Même si ce film-là dure 3 heures et même si j'apprends à l'instant qu'il va y avoir une version 4 heures sur Apple TV bientôt. J'étais pas très chaud à l'idée, puis mais peut-être que Ridley Scott a plus vraiment besoin d'argent pour son épicerie, fait que peut-être qu'il y a un peu plus de motivation que le simple fait d'être là puis de faire un film. Bon, je dis ça, mais c'est certain que faire un film, c'est jamais simple. Bref, j'espérais. Et disons que c'est ça. Toi, dis-moi, Kevin, est-ce que tu as apprécié Napoléon?
J'ai apprécié certains éléments du film. Je dirais pas que j'ai détesté le film, mais c'est quand même une déception. Je pense qu'on va être quand même d'accord sur les points négatifs.
Ben, je pense aussi. Je te dirais que tout n'est pas à jeter dans ce Napoléon. Mais il y a beaucoup de choses, surtout que, bon, moi, j'aime bien Napoléon. Je suis pas un partisan d'une dictature militaire, comme évidemment, il était un empereur, donc t'es pas tellement un démocrate. Moi, je suis plus démocratie représentative, élection par le peuple et tout ça. Mais malgré tout, l'homme est fascinant. L'homme, je le trouve vraiment intéressant et complexe. Et c'est pour ça que je me disais, résumer sa vie en 3 h 20, je pense.
Ah, même pas, le film il fait 2h40. Il a
C'est
peut-être paru plus
2 h 40?
long, mais c'est 2h40.
Effectivement. Dans ma tête, c'est 3 h. J'ai confondu, pardon. Bref, 2 h 40. 2 h 37 exactement. Là, je vois ça ici. Mais c'est parce que aussi, c'est ça. Toi, j'ai fait ce que je fais pas souvent, c'est-à-dire je suis allé voir un film en salle. Pour la dernière fois, c'était avec toi, justement. C'était pour Mission Impossible. Bon, je l'avais pas oublié, mais j'avais pas hâte de me taper 20 minutes, d'acheter d'autres affaires. Voici la publicité, voici les prochains films assez ennuyeux qui s'en viennent sur nos écrans. Dans un Banque Scotia, assez désert parce que c'était la séance de 16 heures tantôt. Donc c'est un peu triste déjà. Et ensuite, là, j'ai vu Napoléon, puis j'étais comme ah, vraiment. Donc, ouais. Donc, c'est ça, tu sais, tout n'est pas à jeter. Beaucoup de choses, visuellement, entre autres, c'est les costumes, les décors, tout ça, c'est très bien. On sent que c'est un film qui a de l'ambition, mais tu peux pas résumer, même en 4 heures, je pense pas que tu puisses résumer Napoléon. Donc, pour toi, penses-tu qu'en 4 heures, ça pourrait faire la job ou déjà 2 h 37, t'en as en masse
Ouais, ben je sais pas, c'est tout se peut parce que tu sais, dans le dernier épisode, on a fait Oppenheimer, qui est un film qui raconte quand même beaucoup de choses par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, en partie la guerre froide, tout ça. Ça durait 3 heures. Puis moi, je trouve que Oppenheimer, c'est la durée parfaite, c'est le rythme parfait. C'est pas trop long, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'informations, mais on dirait que c'est tout le temps exactement le bon temps qui est alloué à chaque élément. Tandis que Napoléon, je pense qu'un des gros défauts, c'est que justement, soit que ça va trop vite, soit que ça va trop lentement. Tu sais, je m'explique. Particulièrement au début du film, j'avais l'impression, tu sais, je sais que toi, t'es un gros fan de jeux vidéo, tu sais, quand tu vas sur, mettons, sur YouTube, quand quelqu'un fait un speedrun d'un jeu vidéo, tu sais, qui va super rapidement essayer de finir le jeu le plus rapidement possible, puis j'avais l'impression que c'était ça de la Révolution française.
Ouais.
Tu sais, ça commence le film, puis je pense qu'en 10 minutes, on voit Marie-Antoinette se faire guillotiner, puis on tout ce qui a rapport à la Révolution française passe super vite. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui a des super grandes connaissances en histoire française. Donc, je reconnaissais certains noms, tu sais, comme Marie-Antoinette ou Robespierre ou tout ça, mais ça allait tellement vite que j'étais comme, OK, là, ralentissez, expliquez-moi plus.
Puis, oui, ben, excuse-moi, vas-y.
Non, vas-y, vas-y.
Non, mais t'as tout à fait raison, c'est moi, selon moi aussi, c'est ça le problème du film, c'est qu'il y a tellement de contexte. Puis je m'attends pas à voir l'histoire de la France au complet. Je veux dire, on va être là pendant des décennies là, à se raconter des affaires. Mais comme tu dis, ça commence avec la fin de la Révolution française. La terreur, les gens sont guillotinés, il y a des jeux de pouvoir. Là, on a Robespierre, il est là 30 secondes. Là, Napoléon arrive, là, les Anglais envahissent Toulon. Pourquoi si on... Il y a toutes sortes de choses qui se passent et ça nous ramène au fait que comment tu veux tout mettre ça en 157 minutes? Parce que là, il faut que tu partes de la fin de la Révolution, donc 1700, fin des années 1700, pardon, fin du 18e siècle. Et là, tu te rends... C'est sûr que tu dis, bon, Napoléon, sa dernière défaite à Waterloo, c'est 1815. Il s'est passé à peu près 20 ans. Sauf qu'en 20 ans, on est parti de la fin d'un régime royaliste à... Le gars, il crée son... Bon, il a été aidé par d'autres personnes, c'est sûr, mais le gars... Le type passe d'un officier d'artillerie très ordinaire à un général. Il devient un politicien, un peu malgré lui. En tout cas, évidemment, il y a de l'ambition. Devient empereur, perd une première fois, revient, perd une deuxième fois, en 20 ans, là. Donc, c'est tellement gigantesque que t'as absolument raison qu'on est là. Qu'il y a de l'exposition constamment. On a du texte à l'écran constamment. Et il y a plein de choses qui sont pas là. Il y a plein de choses qui sont escamotées. Ils ont changé. Puis je sais que c'est une vision, tu sais, romancée de l'histoire. Je sais que je suis pas un fanatique, comme je disais, je suis pas un fanatique de Napoléon qui dit non, il y a pas le bon soldat à la bonne place dans telle bataille. Je veux pas besoin de ça. Sauf que après, je savais qu'on allait parler du film aujourd'hui, puis comme je pense que je l'ai mentionné, c'est un sujet qui m'intéressait déjà. Sur YouTube, il y a des vidéos explicatives des grandes batailles de Napoléon. Et je pense que le plus compliqué à faire quand tu parles de Napoléon, des guerres napoléoniennes, c'est de rendre compte de l'ampleur du truc. Parce que tu as une bataille, mais la bataille, c'est pas juste... T'as, mettons, 100 personnes de chaque bord, puis là, ça se tire dessus, puis t'as une coupe de chevaux, puis bon, t'as un canon ou deux. Non, non, c'est des batailles sur des kilomètres de long, avec 200 000 soldats en même temps, au total. Donc, si t'essaies de faire ça dans un film, ça va prendre, ça va coûter très cher d'effets spéciaux, et c'est pas évident de nécessairement attirer les gens, de dire, OK, on te fait une bataille, puis ça dure 45 minutes, puis tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, parce que là, effectivement, t'es constamment en train de changer ton angle de où, qu'est-ce qui se passe où, puis bon, qui tire sur qui, puis donc, et tu veux pas que ça soit un cours d'histoire avec quelqu'un qui a une baguette, voici ici les forces qui vont attaquer, là. C'est pas ça que tu veux, donc, et en plus, ce que Ridley Scott a voulu faire, puis ce qui est tout à fait correct, c'est parler d'histoire d'amour entre Napoléon et Joséphine, qui était sa première épouse. Et là, tu rajoutes ça dans le film qui contient déjà de l'histoire, de la politique, du combat. Ça pouvait pas... Je pense pas que c'était trop... c'est trop ambitieux. Je pense que carrément, là, il y avait trop de choses en même temps. Et ça donne, comme tu l'as mentionné, là, avec ma très longue parenthèse ensuite, cette espèce d'idée de speedrun, ou en tout cas de voici le moment historique, là, voici la minute historique avec du texte qui défile à l'écran. On est quasiment dans Star Wars avec le texte au début. Là. Donc, c'est ça. Ça va très vite et on a l'impression qu'on nous bourre la tête de plein d'informations. Là.
Puis à l'opposé, tu as mentionné un peu son mariage à Joséphine. Cette partie-là du film, c'est vraiment long. Ouais. Autant qu'on passe super rapidement sur le contexte historique, la politique, tout ça, les stratégies militaires, quand on se retrouve avec Joaquin Phoenix qui joue Napoléon, puis Vanessa Kirby qui joue Joséphine, j'ai l'impression qu'il y a à peu près une heure du film qui est seulement sur leur mariage, sur leur rencontre, leur correspondance quand lui est parti à la guerre, même leur vie sexuelle. Eux, ils essayent d'avoir un enfant, ils ont de la difficulté, tout ça. Puis bon, éventuellement, ils vont se divorcer, tout ça. Puis je respecte que c'est ça le choix du scénariste et j'imagine de Ridley Scott de dire « OK, on veut vraiment se concentrer » sur l'histoire d'amour, mais je sais pas, mais ça, on pourra en parler. Moi, je trouve pas que c'était les scènes qui étaient les plus intéressantes. Je trouvais que tout ce qui était... bon, on connaît Ridley Scott, comme on disait, qui a fait des films comme Gladiateur, tout ça. Fait que je trouve que son gros talent, c'était vraiment les séquences de bataille.
Ouais.
Il y en a, je pense, trois qui sont vraiment épiques dans le film. C'est clairement les moments forts. Donc, je comprenais pas pourquoi qu'on s'était pas plus concentré là-dessus plutôt que, bon, OK, il y a une grosse bataille, puis là, après ça, on va aller passer une demi-heure à aller voir, se courir après, puis coucher ensemble, puis tout ça. Je sais pas, je trouvais que c'était inégal.
Mais ça aurait pu... J'aurais pu apprécier, je pense certainement pas seul, t'as un film, tu dis, OK, mon angle, c'est la relation entre Napoléon et Joséphine, avec évidemment saupoudré par-dessus ça des quelques batailles, puis évidemment la carrière militaire du type, parce que bon, ça reste un dirigeant militaire à la base. Mais à ce moment-là, donne-nous des personnages qui ont de l'allure, parce que là, Napoléon, je sais pas, je veux dire, moi, évidemment, j'ai pas lu ce qui a été écrit sur Napoléon, évidemment, mais je me dis, t'as beau être... c'est certain qu'on dit, bon, il y a des dirigeants, il y a des dictateurs qui sont colériques, qui ont pas une personnalité très développée, ça, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais je me dis, le type, encore une fois, il est ambitieux, il est fonceur, parce que, bon, sur le champ de bataille, il est un génie tactique, il doit avoir un fond de personnalité. Là, il revient à la maison. On dirait qu'il y a de la misère à s'exprimer. Quand il fait l'amour avec sa femme, c'est du n'importe quoi. Il y a notre collègue Justine Smith, là, qui était venue au podcast une fois parler d'un film, justement sur le sexe, qui écrivait dans sa critique, qui disait « Napoléon baisse comme s'il était à cheval. » Et je me dis, à quel point est-ce que tu veux tourner l'homme en ridicule? Puis encore une fois, je suis pas un défenseur de Napoléon, puis bon. Mais j'aurais voulu une profondeur de personnalité. Même sa femme, Vanessa Kirby, que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans les deux derniers Missions Impossibles, qui va revenir d'ailleurs dans le prochain, dans le Dead Reckoning Part 2. Qui est justement une personnalité forte, une femme ambitieuse, tout ça. Et là, on dirait que lui cabotine. Napoléon est un pleurnicheur. En fait, je regardais ces scènes-là et tu sais, Joaquin Phoenix qu'on a vu toi et moi récemment dans Boys Afraid. Et je me disais, est-ce que c'est une très, très longue scène de Boys Afraid?
Mm-hmm.
Parce que dans Boys Afraid, c'est plusieurs longues scénettes où notre personnage principal ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, il a peur, il est anxieux, tout ça, il est un peu geignard, il pleurniche un petit peu. Puis là, on a un empereur, un chef militaire, un homme d'État qui geignard, qui pleure, qui ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Comment tu peux faire l'équation entre ça cette personnalité-là qui est quasiment inexistante et le fait que 200 ans plus tard, on en parle encore tellement souvent de Napoléon qu'ils font des films sur lui. Là.
Donc, non, mais c'est ça, parce que Boy Is Afraid, tu sais, je trouve que Joaquin Phoenix, c'est un super bon acteur, puis dans Boy Is Afraid, c'était parfait ce qu'il faisait d'être, comme tu dis, tu sais, un peu bizarre, puis peureux, puis j'ignore, mais il jouait un loser, il jouait un perdant, quelqu'un qui a pas vraiment d'ambition, quelqu'un qui est un peu perdu dans sa vie, ça marchait, mais là, on est supposé de croire que Napoléon est aussi ce genre de personnage-là que, me semble, ça a pas de sens. Comment il pourrait convaincre... Bon, OK, souvent, c'est par la force, mais ouais. Justement, comment il pourrait dominer politiquement puis à travers les scènes de guerre, tout ça, c'est vraiment dur à suivre là, par rapport au personnage. Là.
Et c'est surtout que Napoléon, dans les vidéos que j'écoutais sur l'explicatif sur ses batailles, plusieurs fois, il a gagné parce qu'il est allé avec ses troupes en disant « On y va, on fonce, vous êtes la France, on, tu sais, l'honneur est à, on va gagner notre honneur », puis vraiment le speech patriotique, puis là, les gens, les soldats fonçaient, puis bon, il y en a plusieurs qui mouraient, évidemment, mais tu sais, c'était comme ça, c'était pour la gloire de la France, et là, c'est un peu comme si, je sais pas, s'il vous plaît, voulez-vous attaquer, tu sais, ça fait un peu...
Ça me fait penser, il y a une scène... Après son premier exil, il se retrouve face à des soldats français qui sont maintenant contre lui et il réussit à les convaincre finalement de redevenir son armée. Puis, il me semble que, je pense que ça, c'est quand même un fait historique.
Oh, oui.
Mais selon le personnage qu'on a découvert dans ce film-là, c'est complètement ridicule parce qu'on est comme, pourquoi que, comment il pourrait réussir à les convaincre, tu sais, cet être risible.
Oui, ben, en même temps, dans cette scène-là, pour une fois, il y a l'air de quelqu'un qui dit, il y a l'air de faire le discours qu'on n'entend jamais durant le reste du film, le discours de « ralliez-vous à moi », bon, on va former la gloire de la France, « make France great again », comme dirait un certain président américain. Donc, ça arrive une fois, puis ça arrive à la fin. Mais le reste du temps, comme on le dit depuis plusieurs minutes déjà, c'est ça, c'était un personnage un peu pathétique. Et je sais pas c'était quoi l'objectif de Ridley Scott là-dedans, parce que si tu veux faire un drame historique, oui, tu peux tourner les coins ronds, puis oui, tu peux laisser certaines choses de côté, mais je sais pas, détruis pas l'image de la personne que tu essaies de... Parce que tu le présentes comme un conquérant, comme un être, bon, un génie, comme comme un empereur. Je veux dire, bon, le premier quidam devient pas empereur comme ça, là. Donne-lui au moins une chance de se prouver comme étant quelqu'un qui a un peu de personnalité, mais un peu de profondeur de plutôt que d'être unidimensionnel. En tout cas, ça m'a fâché un peu parce que c'est deux bons acteurs, comme tu l'as mentionné, Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby. Puis là, bon, ils sont sous-utilisés. Là, c'est vraiment dommage.
Mais aussi, je voulais te demander, toi, ça t'a-tu dérangé le fait que ça soit des acteurs anglophones? Parce que c'est quand même, tu sais, ça m'a fait penser à ça parce que tu disais, ah, la gloire de la France, tout ça, nanana. Puis, pratiquement tout le film est en anglais. Joaquin Phoenix puis Vanessa Kirby essaient même pas de, mettons, parler en anglais puis avoir un accent français. C'est comme, non, lui, c'est un Américain, elle, c'est une Britannique, puis il y a aucun français là-dedans. Là.
Ben, écoute, ça me dérange pas tant que ça. Il y a certains moments où, oui, effectivement, il y a du français, bon, il y a des signes en français, tout ça. Je le savais d'avance qu'il allait parler anglais. Je savais, bon, c'est un peu particulier parce que ce qui aurait été drôle, c'est quand à la fin, par exemple, bon, spoiler, Napoléon perd à Waterloo, attention, du Vic-Gacher. qu'après ça, il rencontre un responsable des Anglais pour signer la paix, puis il disait, bon, en fait, après avoir signé sa reddition, je pense, puis il se fait dire, on va t'envoyer en exil encore une fois, mais cette fois-ci, c'est dans une place vraiment perdue, sur l'île de Sainte-Hélène, pas notre île Sainte-Hélène, mais l'île Sainte-Hélène, je pense qu'il appelle au-delà de 1000 kilomètres au large de l'Afrique, là, il n'y a pas grand-chose. Et ils se parlent, les deux se parlent en anglais, puis tout ça. Ça aurait été drôle, c'est de dire, il prend un accent, ou tu sais, quelqu'un comprend moins bien, ou quelque chose de même, ou que bon, même quand il parle, je pense que quand il parle avec l'empereur, le Napoléon parle avec l'empereur russe, les deux parlent un bon anglais, tu sais, on aurait pu jouer un peu avec les accents, avec la compréhension, mais bon, c'est pas. Non, ça m'a pas choqué. Ce qui m'a choqué un peu, en fait, c'est. Tu sais, certaines libertés qui ont été prises pour des raisons que j'ignore. Bon, ça me dérange pas tant qu'il y a tiré sur les pyramides, comme on voit dans la bande-annonce, même s'il n'y a jamais eu cette bataille-là. Il y a une bataille qui s'appelle la bataille des pyramides, qui n'a jamais eu lieu proche des pyramides en Égypte. Ça me dérange pas trop. C'est visuellement, c'est impressionnant. Bon, OK, ils ont tiré ces pyramides, d'accord. Mais ce qui m'a agacé, c'est que t'as une voix off de Phoenix qui raconte une lettre qu'il écrit à sa femme, puis il dit « Oh, mon voyage en Égypte après ma campagne d'Italie où ils se sont rendus sans combattre. » Alors que dans l'histoire de Napoléon, la campagne d'Italie, c'est là où il y a eu ses faits glorieux, ses premières conquêtes. En 3 mois, je pense qu'il y a eu quelque chose comme 10 batailles et qu'il a tout gagné. Puis c'était vraiment, tu sais, il a pris les gens en revers, il a été chanceux plusieurs fois, tout ça. Puis donc il a triomphé vraiment. Plus que il n'y a rien eu, il s'est rien passé. Ou autre chose, je sais pas, à la fin de la dans le film, à la bataille de Waterloo, Napoléon charge dans la mêlée générale, alors que jamais t'enverrais ton chef d'État. On n'est plus à l'époque d'Alexandre le Grand, tu sais, la Grèce antique. Donc, c'est pas catastrophique pour le film. Le film comme tel est pas pourri. Si ça avait été quelqu'un qui n'existait pas, qui n'avait pas existé, l'empereur Georges, je viens de faire un nom comme ça, là, Georges l'empereur, puis bon, ça serait resté quand même quelqu'un de manque un peu de personnalité, mais tu dis, OK, c'est une histoire potable, il a pris des, bon, il a monté les échelons du pouvoir, avec sa femme, finalement, ça marchait pas, il l'a laissé, il est allé, bon, il s'est remarié, puis il a mené des batailles, puis il était vaincu. OK, c'est à savoir historique correct, sympathique, mais c'est vu que c'est rattaché à un nom tellement connu, tu sais, chaque petite imperfection, t'es comme, pourquoi? Ça enlève rien au film que tu le mentionnes en passant que, ah chérie, je suis en Égypte maintenant, après ma campagne d'Italie, point. Tu sais, that's it. Il y a pas, t'as rien à rajouter, t'as rien à enlever, t'es bon. Mm-hmm. Tu sais, c'est un peu comme dans, tu sais, si tu dis, OK, on veut pas passer de temps à parler de cette campagne-là, c'est correct. On n'a pas d'argent pour les batailles, c'est correct. C'est comme dans Game of Thrones, la série. Évidemment basé sur les livres. Dans la première saison, il y a une bataille où le personnage de Peter Dinklage est supposé triompher. Puis finalement, il n'y avait pas de budget parce que c'était la première saison de la série. Fait qu'ils ont dit, OK, ben, il se fait assommer par quelqu'un puis il se réveille après la victoire. OK, c'est correct, ça marche. Bref, fait que, tu vois ce que je veux dire? C'est comme, il y a des choix qui ont été faits puis je ne les comprends pas trop. Enfin, voilà.
mais c'est ça. Je pense qu'on est beaucoup dans les points négatifs, mais ouais. Je veux quand même mentionner que, on l'a effleuré un peu. Ridley Scott, c'est quand même un bon réalisateur. Là, oui. Il a fait quand même beaucoup de trucs qui marchent plus ou moins, mais quand il s'arrête puis qu'il fait une scène de bataille, je pense entre autres vers le début, le siège de Toulon. Oui. Il y a aussi la bataille d'Austerlitz. Si vous avez vu la bande-annonce, c'est quand l'armée ennemie se retrouve sur un lac gelé puis il tire du canon là-dessus. Puis aussi Waterloo à la fin. Il y a des séquences vraiment spectaculaires puis qui sont... bien filmé, bien monté, puis moi j'étais, puis surtout ça, j'étais content pour ça de voir le film sur grand écran. Je trouvais que ça fonctionnait. J'étais comme ah ok, wow, ok, je suis content de voir un film de Ridley Scott sur grand écran. Mais c'est ça, c'est peut-être 3 ou 4 séquences sur 2 heures, 2h40.
Ouais, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Les décors, les costumes. Tout ça, c'est vraiment très, très bien. On a pris, j'imagine, beaucoup de bâtiments qui étaient là à l'époque. Souvent, c'est des vrais bâtiments. Ils sont allés en France tourner dans des palais, tourner dans des lieux, justement, qui ont servi, bon, même avant l'arrivée de Bonaparte. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai rien à redire. Mais c'est ça. C'est, après ça, c'est qu'est-ce que tu fais de ces endroits-là? Comment tu les exploites et tout ça? Bon, là, c'est là qu'effectivement, le bas blesse un petit peu. Mais bon, est-ce que quand même tu as passé un moment agréable? Est-ce que tu es content de ton expérience malgré tout?
Ben, c'est ça. Comme je disais, je suis content de l'avoir vu. Principalement pour les scènes de bataille, puis aussi à travers le film, il y a quand même des petits moments où que, tu sais, même si ça allait trop vite l'histoire, j'étais comme ah ben c'est quand même intéressant de voir les reconstitutions de tout ça. Puis on a mentionné quand même que Joaquin Phoenix puis Vanessa Kirby, même si leurs personnages sont plus ou moins crédibles là-dedans, ça reste quand même des bons acteurs. Ils ont des scènes qui sont quand même marquantes, surtout au début de leur relation. Il y a une espèce de rapport de domination, soumission entre eux qui est intriguant.
Ouais.
Donc, c'est ça. Je sais pas si je recommande le film, mais tu sais, je regrette pas d'être allé le voir, mais c'est ça. Je suis plus déçu, mettons, que dans le gros enthousiasme.
Ouais, non, je comprends ça. Je t'avouerai qu'à un moment donné... J'ai fait ce que je fais jamais puis ce que je devrais jamais faire au cinéma. J'ai sorti mon téléphone. Je sais que c'est pas correct, là, mais on était 6 dans la salle, puis bon, je pense pas que je dérange personne. Mais bon, je trouve un peu le temps long, puis je pense surtout que c'est le fait que, bon, encore une fois, au cinéma, c'est ça, je l'ai mentionné, là, il y a toujours comme 30 minutes de publicité puis de bande-annonce avant le film. Et t'es comme, peux-tu juste voir la chose pour laquelle j'ai payé, puis s'il vous plaît. Mais bon, je pense qu'aussi, bon, je sais pas si je le recommanderais. Je sais que là, je suis en train de lire du coin de l'œil, là. Steven Spielberg travaille sur une mini-série pour HBO sur Napoléon. Ça a l'air que c'était un des projets de Kubrick à l'époque. Et qui ça va être en 7 parties. C'est pas encore... prêt, évidemment, mais bon, c'est en développement. Je serais très curieux de voir ça, parce que je pense qu'effectivement, en série, tu sais, si tu dis,
ben,
bon...
Il y avait il y a quand même pas mal d'années, Yves Simonneau avait tourné en France une série sur Napoléon qui durait, je pense, 6 heures. Je l'ai pas vu, mais je pense que, il me semble qu'à l'époque, les échos étaient assez positifs.
OK. Ben, je l'ai pas vu non plus. J'ai vu que ça existait, hein, je pense, en 2002, avec okay. Christian Clavier qui fait...
Ouais, c'est ça.
Napoléon. C'est quand même particulier. Écoute, ça peut être un bon choix, effectivement. Mais en tout cas, ça prouve que c'est un sujet qui est intéressant et que c'est un sujet qui a assez de stock dedans pour dire on est capable d'en faire des justement 6, 7, 8, 10 heures de télévision. Bon, je ne suis pas sûr qu'un film de 10 heures, ça fonctionnerait. Mais je t'en avais parlé. Je t'en ai parlé au courant de l'année, mais j'ai écouté en début d'année Waterloo.
Mm-hmm.
Un film de 1970, un réalisateur soviétique, je pense, Sergei Bondarchuk, voilà, et qui raconte, comme son nom l'indique, la dernière bataille de Napoléon, mais qui avait un peu de contexte aussi, bon, son premier exil, son retour et tout ça. Évidemment, on n'a pas tout, là, mais... et là, c'est ça, c'était surtout la bataille, avec des soldats de l'armée rouge à l'époque, qui avaient créé le terrain... il avait tourné en Géorgie, il avait créé le terrain de Waterloo. Il y avait 20 000 figurants, hein? C'était complètement fou. Et ça, si vous voulez un film, surtout sur Waterloo, avec, c'est ça, un film, je pense, ça dure 3 heures, pour vrai, celui-là. Vraiment bien, très, très bien ficelé. Genre de cinéma qui s'en fait plus aujourd'hui, là. Ça, c'est une forte recommandation, mais c'est ça. Si vous voulez un peu plus de drame personnel, si vous voulez un peu plus si vous voulez avoir l'ensemble de la chose plutôt qu'une petite partie de la vie de Napoléon, le film de Scott, ça peut être une recommandation dans ce sens-là, mais avec plusieurs réserves, ou sinon, effectivement, attendre la série de Spielberg, si jamais ça se fait. On ne sait pas trop encore, mais bon. Bref, ça prouve, comme je disais, qu'il y a énormément de choses encore à dire sur Napoléon.
Oui, absolument, c'est ouais. Ça. Je pense que ça. Après avoir vu le film, je suis allé sur Wikipédia, j'ai lu pas mal de trucs, puis tu sais, on dirait que le film m'avait un peu laissé sur ma faim, que j'avais le goût d'en savoir plus, de plus comprendre le contexte. Donc, c'est ça, il reste clairement plein de choses à raconter, là.
Oui. Si jamais, d'ailleurs, la période de la Révolution française vous intéresse, évidemment, ça, c'est avant, largement avant Napoléon, il y a une série de podcasts en anglais. Clairement qu'il doit en avoir en français aussi, mais celle que j'ai trouvée, c'est surtout en anglais. Ça s'appelle Revolutions, qui n'est pas juste sur la Révolution française, mais il y a une saison complète d'épisodes sur la Révolution française. Et donc, après ça, tu as d'autres sortes de révolutions. Ça va évidemment jusqu'à la Révolution russe, en fait, au début du 20e siècle. Et j'imagine qu'à mesure qu'ils vont progresser dans leur histoire, ils vont se rendre jusqu'aux révolutions de deuxième moitié du 20e siècle et tout ça. Voilà, mais c'est ça. Donc, il y a une saison complète, je pense à la troisième, podcast Révolution sur la Révolution française. Un peu compliqué parce que beaucoup, beaucoup d'acteurs et de personnages, puis il explique le système royal français, comment ça marchait la société à l'époque. Avec du recul, tu te dis, voyons comment ça pouvait fonctionner, puis comme de fait, ça marchait pas. Donc voilà, ça peut être une très base, très, très intéressante. Puis sur Napoléon, encore une fois, il fait toutes sortes de choses. Voilà. Ben écoute, Kevin, on n'aura pas conquis Moscou, mais on aura quand même vu Napoléon de Ridley Scott. Merci d'avoir suivi cette aventure épique avec moi.
Oui, puis d'ailleurs, je voulais le mentionner, oui. On enregistre l'épisode le 30 novembre, oui. Et le 30 novembre, c'est la fête à Ridley Scott, qui a 86 ans aujourd'hui. Il est né le 30 novembre 1937, donc faut quand même souligner que même si on a beaucoup de points négatifs sur son film, pour quelqu'un de 86 ans, c'est quand même impressionnant qu'il tourne encore des films épiques comme ça, là.
Ah oui, absolument. Je veux dire, j'aimerais juste ça, être encore en vie à 86 ans.
Ouais, c'est ça, tu sais.
On verra comment ça se passe, mais oui, ça, on va le souligner, effectivement, toujours en train de travailler. Lucien Bouchard serait fier. Cette référence-là commence à être vieille un petit peu. Kevin, il nous reste deux semaines avant la fin de l'année. Deux semaines avant nos vacances et fêtes. Veux-tu nous parler un petit peu du programme? Qu'est-ce qui s'en vient au podcast pour les deux prochaines semaines?
La semaine prochaine, on avait fait un épisode sur les Trois Mousquetaires, le premier volet. Et le deuxième volet va sortir au Québec en décembre, qui s'appelle Milady, je crois. Oui. Et on va faire un autre épisode justement pour boucler la boucle. Et on vous l'avait déjà annoncé, notre dernier épisode de l'année avant les vacances, ça va être respectivement chacun de nos top 10 dont on va discuter.
Effectivement, bon, on avait fait ça l'année passée, ouais. Pas la première fois. C'était un exercice assez intéressant d'ailleurs. Je peux déjà dire que Napoléon ne sera pas dans mon top 10, mais je peux dire qu'Oppenheimer va y être. Alors, c'est tout ce que je donne comme divulgateur.
Ouais, même chose ici, il n'y aura pas Napoléon.
Voilà. Ben, je te remercie, Kevin, encore une fois, de te prêter au jeu comme ça chaque semaine pour parler cinéma. On se reparle, bien sûr, la semaine prochaine, tu l'as mentionné, pour Milady. Pour ceux qui nous écoutent, merci beaucoup, beaucoup d'être au rendez-vous. C'est toujours très apprécié de savoir que vous nous écoutez. Ben, on voit les statistiques, on voit les clics là, sur les épisodes. Des gens qui nous en parlent directement. Sinon, vous êtes des internautes qu'on ne connaît pas, mais on vous salue quand même. Vous pouvez toujours vous abonner à la page Facebook là, du podcast. Tu me disais là, récemment, là, il y a quelques heures, tu as partagé une bande-annonce là, pour une... c'est une série, c'est un film qui s'en vient, j'ai mal saisi.
C'est le film Furiosa, c'est comme un antépisode de Mad Max Fury Road que j'ai très hâte de voir.
Furiosa, qui était excellent, effectivement. Ben écoute, moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Il y a des choses aussi qui sortent durant le mois de décembre. Là. Le film qui est un peu Star Wars, mais sans être Star Wars. Je sais pas si ça dit quelque chose.
Ouais, Zack Snyder, que ça s'appelle Rebel Moon, ça va sortir sur Netflix.
Donc, ça s'en vient, sauf si on ne pourra pas le voir avant notre fin d'année. Mais on va probablement vous en parler, un petit épisode, peut-être rattrapage, là, en début du mois de janvier. On verra comment ça se présente. Avant de vous laisser, bien sûr, si vous voulez écouter les autres épisodes de Rembobinage, on vous a parlé, bon, si ça vous tente de vous mettre à jour dans Trois Mousquetaires, sinon on a toutes sortes de choses qui sont disponibles, au-delà de 100 épisodes maintenant. Tout ça, c'est sur pieuvre.ca, bien sûr. On est aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Et avant de terminer, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de Pieuvre. C'est livré chaque samedi, c'est gratuit et ça vous permet d'accéder à tous nos articles, toutes nos critiques, tous les épisodes de podcast. Pour vous inscrire, c'est très, très simple. Vous allez sur le site, il y a un formulaire dans la colonne de droite. Ça prend quelques secondes et voilà, donc chaque samedi matin, c'est dans votre boîte de réception. Kevin, merci encore et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt.